Oui, donc pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur d'une façon un peu insolite. Allez, pour introduire, on va vous raconter comme ça. Un peu insolite pour le coup, puisque le thème de ce que je vais vous partager ce matin m'est venu en visionnant en famille un dessin animé. Oui, Rita, je te vois rire. C'est la chance d'avoir des enfants, on regarde des dessins animés, même à 30 ans, même toi aussi. Mais pour le coup, je t'avouerai que c'est plus un dessin animé que j'ai regardé moi tout seul, puisque c'était un dessin animé inspiré, c'était un dessin animé biblique proposé par une plateforme sur Internet, qui retraçait l'histoire de Joseph, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, hein, histoire qu'on retrouve pour ceux qui veulent la relire dans Genèse 37, et qui, pour résumer en grande ligne, Joseph était un homme à qui Dieu avait donné la faculté de pouvoir interpréter les rêves, et à qui Dieu parlait à travers des songes. Et ce dessin animé, il nous a particulièrement marqué, à moi et mon épouse, pour plusieurs raisons. La première, parce que j'espère que vous lirez cette histoire, ou peut-être vous verrez ce dessin animé, mais une nouvelle fois, elle met en valeur à quel point nous avons un Dieu grand, puissant, merveilleux, miraculeux, et à quel point, même si parfois, ses plans peuvent être semés d'embûches, ils finissent tous par s'accomplir parfaitement, et avec une belle finalité. Et je trouve ça beau. Mais en réalité, ce dessin animé, il nous a aussi impacté, il a titillé mon cœur pour une autre raison. Enfin, ce n'est pas le dessin animé en lui-même, mais c'est une réaction de mon épouse à l'issue de ce dessin animé. Elle m'a posé une question, alors je ne voudrais pas déformer ses propos, elle vous le dira si je me suis trompé. Mais elle m'a dit à la fin de ce dessin animé, elle m'a dit « Jo, je comprends pas. Pourquoi les miracles, comme on peut en voir dans cette histoire ou pour Joseph, ou comme je peux les lire dans la Bible, pourquoi ces miracles ?» On ne les vit pas aujourd'hui ou on ne les vit plus autant aujourd'hui. On ne les vit plus autant aujourd'hui. Et ça a impacté mon cœur, sa question. Parce que, premièrement, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu des gens dire ça. Et même moi-même, je me la suis posée à certains moments. Et deuxièmement, cette question, elle a aussi impacté mon cœur. Parce que, comme les fois où j'ai pu les entendre ou comme les fois où j'ai pu les poser, au moment où Pauline m'a posé cette question, je suis resté sans réponse. Et troisièmement, cette question, elle m'a impacté parce que c'est comme si le Seigneur, à ce moment-là, il me disait « Geoffrey, il est peut-être temps que tu te bouges, que tu cherches dans ta parole, dans ma parole, et que tu trouves enfin une réponse à cette question. » Et en repensant un petit peu à tout ce que aux discussions que j'ai pu avoir avec peut-être aussi des gens parmi vous à ce sujet-là, et puis aussi des expériences passées, j'ai remarqué en commençant à réfléchir à ça que quand on parle de miracles, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui vont vous dire, les miracles, bah oui, il y en a dans la Bible, ils font partie quand même du livre sur lequel on repose notre foi, mais ils appartiennent principalement à un temps passé, un temps où Dieu agissait comme ça. Peut-être qu'il le fait moins aujourd'hui, qu'il en a moins besoin, ou qu'on en a moins besoin, ou ces miracles étaient portés par des grands hommes. Peut-être qu'il y en a un peu moins aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui vous diront ça. Et il y a des gens, comme moi ce matin, en tout cas, ce sera ma vision, qui pense que les 37 miracles de Jésus, parce que je me suis amusé à les compter, j'ai mis du temps, les 37 miracles de Jésus dans les évangiles, eh ben, ils sont encore transposables aujourd'hui. On peut encore les vivre aujourd'hui. Et ça va être mon but, en tout cas, ce matin, si on peut mettre le diapo. Mon but ce matin, ça va être de vous convaincre de ça. Et pour ça, pour vous répondre là-dessus, pour justifier ça, je vais me baser sur un verset, une promesse de Jésus qu'il laisse à ses disciples avant de partir et que l'on retrouve en Marc 16, 17 à 19. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Donc, en basant sur ce verset principalement, qui sera le fil rouge un petit peu de tout ce que je vais vous partager ce matin, mon but ce matin sera de vous expliquer, vous convaincre, peut-être vous rassurer que d'hier à aujourd'hui, Dieu est toujours un Dieu de miracles. On y va ? Alors, c'est parti. Et pour commencer, il me semblait important, on parle de miracles, il me semblait super important de définir avec vous ce qu'on appelle un miracle. Parce que c'est bien beau de parler de miracles pendant une demi-heure, mais si on ne définit pas réellement ce qu'on parle de miracle, j'avais la sensation en tout cas qu'on serait passé à côté de beaucoup de choses. Et il y a une définition que j'ai trouvée, qui n'est pas dans la Bible, mais elle m'a plu quand même, je vais vous la lire. Cette définition, elle présente un miracle comme un fait extraordinaire vécu par une ou plusieurs personnes, leur faisant croire à une intervention divine. Et cette définition, elle m'a plu pour trois raisons que j'ai mis en gras. Tout d'abord parce qu'elle présente un miracle comme un fait extraordinaire. Autrement dit, un fait qui sort de l'ordinaire. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça, en tout cas, cette présentation, elle est en accord avec le verset de Marc 16, 17. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous, de boire quelques breuvages mortels et que ça ne vous fait aucun mal, ou de chasser des démons, etc. Mais en tout cas, ici, on voit bien que les miracles présentés dans Marc 16, 17 sont des faits extraordinaires, des faits qui sortent de l'ordinaire, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre couramment, en tout cas. Mais cette définition me plaît pour une deuxième chose, parce que le verbe central qu'elle utilise ici, c'est le verbe croire. Et qu'une fois de plus, dans Marc 16, 17, Jésus dit bien « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Donc la foi semble être un point central, en tout cas, dès qu'on parle de miracle, quelque chose qui est en tout cas lié. Et on y reviendra un petit peu après. Et puis cette définition m'a plu aussi pour un troisième point important, c'est qu'elle fait appel à la notion d'intervention divine. Et qu'une fois de plus, dans Marc 16, 17, Jésus ne se contente pas de dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », deux points, et puis il donne la liste. Non, il dit bien « En mon nom ». Donc c'est bien par Dieu. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai dit avant, s'il semble que ce soit notre foi qui soit le déclencheur peut-être du miracle, c'est bien Dieu qui l'envoie. Et donc, à travers chaque miracle, et c'est un point important qu'on va retenir et qu'il faut retenir maintenant pour la suite, à travers chaque miracle de Dieu, c'est sa gloire et sa gloire seule qui est manifestée. Et non la nôtre, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être nous qui vivons le miracle. Amen. Alors ça c'est un peu plus biblique peut-être, en tout cas j'ai recherché également en hébreu le mot utilisé pour parler du miracle dans la Bible, et c'est le mot « mopet » qui est aussi traduit par « signe ». D'ailleurs certains connaissent peut-être Marc 16, 17 sous cette version-là, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Mais derrière ça je trouvais intéressant ce rapprochement entre le mot « miracle » et « signe » parce que tout au long aussi de la suite de la prédication, il faudra voir les miracles comme des signes. Et on peut faire le lien avec la définition au-dessus. Les miracles sont des signes de quoi ? Ils doivent être vus comme des signes que notre foi est présente, que notre foi est grande et assez grande en Dieu, et doit être vus comme des signes que Dieu agit encore aujourd'hui et que Dieu est puissant. Et pour terminer avec qu'est-ce qu'un miracle ? Alors je vais apporter une petite critique sur Marc 16, 17. Non pas que je critique Jésus, loin de là, mais en fait en relisant plusieurs fois Marc 16, 17, je suis resté un petit peu sur ma faim. Je ne sais pas vous si vous avez déjà eu cette sensation-là, mais Jésus, je les ai comptés tout à l'heure, il donne une liste de 5 miracles. Non pas je pense qu'il limite Dieu à ces 5 miracles-là, mais je pense aussi que s'il devait donner la liste de tous les miracles que Dieu pouvait faire, je pense qu'on aurait pu en remplir une deuxième Bible en entier. Mais derrière ça, j'ai quand même relu plusieurs fois, et en relisant, en fait, je me suis remarqué que ces 5 miracles, on pouvait les englober dans tous les miracles. Parce que ces 5 miracles, on peut les classer en 3 domaines. Clairement 3 domaines dans lesquels Dieu peut agir miraculeusement. Je vous montre ça. Marc 16, 17 nous rappelle en effet que ces faits extraordinaires peuvent se manifester, premier domaine, sous des actions divines de guérison. C'est ce qu'on retrouve dans « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». D'ailleurs, la guérison, moi, c'est la première chose auquel je pense quand je pense à miracle. Je ne sais pas vous, mais c'est la première chose qui vient à l'esprit. Miracle, je pense au miracle de guérison. Je ne sais pas. Deuxième domaine, il y en a un autre. Ce sont les miracles de protection. Dieu peut manifester donc ces miracles sous des actions divines de protection. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Des miracles de protection. Et troisième domaine, les miracles de libération. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Alors libération, il faut le voir sous deux formes. Libérer de nos vieux démons, des choses qui nous lient, encore peut-être aujourd'hui, et libération de nouveaux talents, ils parleront de nouvelles langues. Donc il faut voir le mot libérer sous deux sens. Alors ce que je vous propose, pour les 20-25 minutes qui restent ensemble, c'est de prendre ces trois domaines. Et mon but, c'est de montrer que d'hier à aujourd'hui, Dieu est toujours un Dieu de miracles. Donc, à partir de ces trois domaines, prendre un miracle passé et vous montrer, à travers des témoignages vivants, réels, qu'ils peuvent et qu'ils se produisent encore aujourd'hui. Ça vous va ? On y va ? Alors, le premier domaine que je vous propose d'explorer, ce sont les miracles qui protègent. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Et il y a un exemple passé qui illustre bien ça, c'est l'histoire de la tempête apaisée dans les miracles de protection. Matthieu 8, 23-27, c'est un miracle de Jésus donc dans le Nouveau Testament. Je vous propose de le lire ensemble, je l'ai mis ici, comme ça on s'arrange à avoir la même version, C'est peut-être plus simple, mais si vous voulez le prendre, vous êtes libre également de le faire. Donc Matthieu 8, 23-27, je vous le lis. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Quelle histoire magnifique, n'est-ce pas? Alors, ici, quel est le fait extraordinaire? Quel est le miracle? Eh bien, on le voit, il est simple, hein, enfin, on le voit clairement. Les disciples, je ne sais pas si vous imaginez, sont donc sur un bateau d'époque, hein, ce n'est pas les bateaux d'aujourd'hui, une petite barque, comme ils ont dit, et il y a une grande tempête. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que la tempête a l'air si forte qu'à mon avis, ils pensent qu'ils vont chavirer, ou faire ça va être le naufrage, et ils se voient clairement, en tout cas, mourir. Et quel est impressionnant ici, déjà, c'est lui, Jésus, qu'est-ce qui se passe pendant qu'eux, ils voient mourir? Il dort, c'est fou, quand même. Et surtout, quel est le miracle? Eh bien, Jésus se réveille, parce que les disciples réveillent, il menace les vents, la tempête, et celle-ci cesse directement, juste en menaçant. Et ça permet, du coup, aux disciples, entre guillemets, de sauver leur vie. En tout cas, j'imagine qu'après, ils ont pu enlever toute l'eau de la barque et reprendre leur chemin tranquillement. Ici, le miracle de protection vient donc de Jésus. Que retenir de cette histoire? Deux choses importantes. Deux choses que on va plus insister sur le verset 26. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et comme j'ai pu le dire précédemment, qu'est-ce qui semble être au centre, en tout cas ici, du miracle, le déclencheur du miracle, c'est la foi. Non pas la foi des disciples, pour le coup, mais en tout cas, celle de Jésus. Jésus nous montre en tout cas un message, et c'est le deuxième point important ici. Il nous donne la sensation, en tout cas, que si nous plaçons clairement notre confiance avec foi en Dieu, alors les miracles de protection viendront naturellement sur notre vie. Et on a vécu un exemple aujourd'hui, un témoignage que je vais vous partager personnellement, parce que Dieu est bon. Amen. Et en préparant ce message, j'avais un peu de crainte et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Parce que naïvement, peut-être, je ne m'imaginais pas, mais Dieu agit miraculeusement dans nos vies, même sans qu'on s'en rende compte, du moins à partir du moment où on place notre confiance. Et on a vécu en lui. Et on a vécu quelque chose d'un peu fou avec mon épouse et notre fille Alix pendant les vacances en août dernier. Ma femme, elle ne s'en rend pas compte, je l'ai gardée comme ça, elle a un peu de suspense, elle se dit, qu'est-ce que j'ai dit? Elle m'a dit pendant les vacances, un matin, elle s'est réveillée, elle m'a dit, Jo, pourquoi, quand tu pries pourquoi? Est-ce que tu pries pour moi, par exemple? On est parti dans un débat et tout ça, et elle m'a dit, moi, quand je prie, la première chose pour laquelle je prie, c'est pour que Dieu protège mes enfants. Mais concrètement, je le vois pas. Enfin, si, ils sont en bonne santé, donc j'ai envie de dire que ça marche, mais je vois pas comment il agit. J'aimerais bien voir comment il agit, peut-être, sur mes enfants pour montrer qu'il les protège. Et en vacances, on était à un camping dans le sud et il y avait une aire de jeu. Et donc on y allait tous les jours avec Alix. Alors je vous avouerai que c'était pas une aire de jeu adaptée pour les enfants de son âge. Par exemple, elle aimait bien marcher sur une poutre. Il y avait un système de poutre avec des filets sur le côté, vous savez, qui était sans blague à 2,50 m du sol. Je dis ça parce que je touchais les pieds d'Alix les premières fois en me mettant sur la pointe des pieds et en levant les mains. Bon, on n'était pas rassurés, mais Alix s'en sortait bien. Donc tous les jours, on la laissait faire. Et le dernier jour, on est retourné à cette aire de jeu et puis on était concentrés par autre chose. Elle me regarde avec des yeux, ça ressurgit. Bon, je l'ai un peu déconcentré, on a laissé ma fille partir tout seule. Et ce qui devait arriver, bien sûr, arriva. Qu'est-ce qui s'est passé? Alix, un peu fatiguée en plus ce jour-là, avait fait une grosse journée. Elle est passée à travers les mailles du filet, c'est le cas de le dire, et elle est tombée de 2,50 m à plat ventre. Je veux dire qu'à ce moment-là, moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a impacté, c'est le bruit du choc au sol. Je me suis retourné. Premier réflexe que j'ai eu, c'est courir vers elle et je me suis dit, là, c'est grave. C'était sûr. Et en arrivant, les gens autour étaient pétrifiés d'ailleurs. En arrivant sur elle, le premier réflexe, la première chose que j'ai vue et qui m'a rassuré, c'est un, elle pleurait. Bon, donc elle était en état de choc. Mais surtout, pourtant, elle est tombée face, boum, à plat ventre. Elle n'avait aucune séquelle. Elle se plaignait de rien. Bon. Alors, on rentre avec mon époux, je dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est dingue. Mais avec mes yeux humains, un peu comme les disciples, je me suis dit, bon, peut-être que j'avais manqué de foi à ce moment-là. J'ai dit, on va quand même aller aux urgences. On ne sait jamais à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Logique, on réagirait tous comme ça, je pense. Et on est allé aux urgences, j'étais parti pour toute la soirée, certes. Le fait d'aller à l'hôpital, Alix a commencé à paniquer un petit peu, elle avait mal au ventre, en plus il y avait une pauvre dame qui se plaignait du ventre, qui hurlait dans les urgences. Donc là, tout ça fait, j'arrive devant le médecin et je lui dis, voilà, ma fille a fait une chute de 2,50 m dans un jeu à plat ventre, je viens parce que voilà. Et Alix a fait, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Le médecin a dit, oula, écoutez, vu comment c'est parti, on la prend tout de suite. On va faire la batterie test parce que si votre fille a vraiment fait une chute de 2,50 m dans un jeu à plat ventre, il doit avoir quelque chose, même si ce n'est pas visible à l'extérieur. Bon, j'ai passé toute ma soirée aux urgences avec Alix. Et ce qui était dingue, c'est que test après test, cerveau, enfin je me souviens, les membres, l'échographie, il n'y avait rien, aucune séquelle. À un tel point que le médecin qui nous a pris au début, il est revenu à la fin et il m'a dit, vous êtes sûr que votre fille elle a fait une chute de 2,50 m? J'ai dit, si, je vous assure. À plat ventre, oui. Bah, en tout cas, monsieur, je ne sais pas si vous êtes chanceux, mais c'est un miracle qu'il n'y ait rien. Et là, ça a tilté dans ma tête. J'ai dit, oui, en effet, c'est un miracle. Parce que mon épouse a placé sa confiance en Dieu par la foi. Dieu a envoyé naturellement son miracle de protection sur elle. Amen. Deuxième domaine que l'on va explorer, c'est les miracles qui libèrent. Ils chasseront les démons, des démons et ils parleront de nouvelles langues. Et il y a dans la Bible que j'aime bien, une histoire, encore un miracle de Jésus. C'est l'histoire de la délivrance de la fille d'une cananéenne que l'on retrouve dans Matthieu 15, 21 à 28. Je vous propose de le lire ensemble. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Envoie-la car elle crie derrière nous. » Autrement dit, elle nous fait une mauvaise pub peut-être. Et Jésus répondit « Certes, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Jésus répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors quel fait extraordinaire on a ici, il faut imaginer un petit peu la situation. On a une femme, alors je ne sais pas si sa fille était avec elle à ce moment-là, on a une femme qui... n'est pas israélienne, j'ai envie de dire, du moins du peuple d'Israël, et qui vient voir Jésus parce qu'elle sait que sa fille est tourmentée par le démon. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est « possédée », entre guillemets. Et elle vient parce qu'elle sait, elle croit, elle est persuadée, en tout cas, elle a entendu certainement parler d'un Jésus qui venait et qui pouvait chasser les démons, peut-être la libérer de ce démon. Et elle vient, elle insiste en tout cas, et qu'est-ce qui se passe? Jésus, devant l'attitude de cœur de cette femme, juste par les mots une nouvelle fois de sa bouche, lui dit qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant même, alors j'ai envie de dire peut-être par distance, en tout cas sans même que Jésus, il n'ait pas précisé ici qu'il impose les mains ou quoi que ce soit, cette fille est libérée, le démon sort de cette fille. Quel fait merveilleux, n'est-ce pas? Quel fait extraordinaire, quel miracle. Que retenir de cette histoire? Deux choses. Première chose, vous allez dire que j'insiste encore là-dessus. Mais qu'est-ce qui a déclenché le miracle une fois de plus? C'est donné dans le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, conséquence, qu'il te soit fait comme tu veux. Première chose, encore une fois, j'insiste, la foi de cette personne a fait en sorte que le miracle vienne, parce que sa foi était assez grande. Et deuxième chose, je l'ai dit, cette femme, c'est une femme cananéenne, et Jésus en parle un peu, il dit, moi je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Dans un premier temps. Donc, entre guillemets, cette femme, dans un premier temps, on aurait pu penser que Jésus n'aurait pas pu agir miraculeusement pour lui. Peut-être que ce matin, tu es là, à ta place, et tu te dis, Geoffrey, il est gentil, il me parle de miracles, mais moi, c'est peut-être les premières fois que je viens à l'église. Peut-être même que je suis tout nouveau dans la foi, peut-être même que je ne crois pas. Moi, je préfère laisser les miracles pour ceux qui croient, pour ceux qui, du moins, sont attachés à Jésus. Moi, personnellement, ce n'est pas trop le quoi. Sache une chose, les miracles sont aussi, Jésus les réserve aussi pour toi. Il te suffit juste d'une chose, que croire que Jésus est capable de le faire. Et la même attitude en tout cas, si tu veux que cette femme cananéenne. Amen. Alors, un exemple qui illustre ça, vous allez dire qu'on a une vie très débordante. Un exemple encore personnel. Encore pendant les vacances, vous allez dire encore les profs qui vont tout le temps en vacances. Mais voilà, cet été, donc pour partir dans ce camping dans le sud, on est parti donc en voiture, mon ancienne voiture que j'ai vendue depuis, vous verrez pourquoi. Ben déjà, premièrement, parce que les deux seules fois qu'on était parti avec cette voiture dans le sud, en 2015 et en 2016, on n'est jamais rentré avec, ou du moins on est rentré avec, mais avec beaucoup de chance. On est toujours tombé en panne. Et là, cette année, donc on repart dans le sud, troisième fois, et avant de partir dans le sud, je me dis, aïe, 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 est-ce que cette année, elle va tenir le coup? Ou est-ce que le fameux 203, jamais 203, c'est bizarre, hein, mais des fois, ça a bien résonné dans votre tête, va se passer. Et donc, on part dans le sud, et ce qui devait arriver, arriva, une fois de plus, c'est-à-dire qu'on arrive sur Lyon, les bouchons, et je ne sais pas ce qui se passe, à partir de ce moment-là, ma voiture, elle faisait n'importe quoi. Dès que je démarrais, c'était, on avait l'impression d'être au Space Mountain, quoi. Ça tremblait, c'était n'importe quoi. Non, en fait, elle broutait à chaque démarrage. C'était insupportable. Et là, forcément, à ce moment-là, dans mon cœur, alors que mon épouse sait comment je fonctionne, et peut-être ceux qui viennent au groupe de maison, j'ai une relation très particulière avec le matériel qui ne fonctionne pas. Je suis un grand paniqué, moi, c'est de la vie. À partir de ce moment-là, le vieux démon de 2015-2016 a ressurgi dans mon cœur. La panique totale. Un tel point que vous pouvez en parler avec mon épouse, elle vous le dira, j'étais invivable pendant les vacances, j'ai pas su me libérer pleinement pendant mes vacances, ce qui est quand même grave. Parce que j'avais dans cette tête toujours cette voix qui me disait, et ta voiture, et comment tu vas rentrer, combien ça va te coûter, etc., etc. Dieu merci, on a su rentrer quand même avec. Je ne sais pas comment, mais on a su finir nos vacances avec. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de voyant allumé, donc ça me paniquait encore plus. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et en arrivant à la maison, j'ai dit, je vais prendre les choses en main, on va le régler ce problème. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, permets-moi, Seigneur, que je trouve la solution. Et j'allais dans les garages, plein de garages j'ai fait. Ils m'ont tous dit des problèmes différents. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'était le prix. C'était autour de à peu près un peu plus de 1000 euros pour réparer. La seule chose où ils étaient d'accord. Et au fond de moi, j'étais mal lié. Et puis j'avais toujours cette voix qui revenait et qui me disait « Et ta voiture, j'en dormais mal, j'étais insupportable. » Pauline, elle me disait « T'es insupportable avec ta voiture. Et fais quelque chose, j'en ai marre. » Et un jeudi, à la fin du mois de septembre, j'ai changé mon attitude de cœur. J'en avais marre. En fait, c'était même plus ma voiture qui m'embêtait, c'était le fait de me sentir mal. Et je me suis posé et j'ai dit « Seigneur, ma prière, c'est plus... trouve une solution, que tu m'aides à trouver une solution pour ma voiture, c'est que Seigneur, tu libères mon cœur de ce poids que j'ai depuis un mois. J'en peux plus. Je sentais en plus que ma famille commençait à plus en pouvoir aussi. Libère-moi de ce poids. » Et le lendemain, le vendredi, je rentre du travail tranquillement avec ma voiture qui continue à brouter. Et après un virage, alors que je roule tranquillement, un voyant qui s'allume. Alors je peux vous dire que si c'était avant, vous pouvez savoir, hein, je me serais mis à pleurer, je suis comme ça, hein. Mon épouse peut vous le dire, je me serais mis à pleurer, j'aurais été mal. Mais à partir du moment où le voyant s'est allumé, j'étais bien. C'est comme si un poids était parti, je disais merci Seigneur. Alors bon, j'étais un peu paniqué quand même, au fond. Mais je disais, ça y est, c'est aujourd'hui, t'as écouté ma prière, je me sentais libéré de quelque chose, j'ai même mis la louange. J'appelle mon épouse, je dis ma chérie, il y a un voyant. Elle me fait, oh non. Je dis oui, mais je vais au garage tout de suite. Et à partir de ce moment-là, Dieu a tout pris en main. J'étais libéré d'un poids, mais à tel point de tout pris en main que je vais même vous raconter quelque chose. Ça serait tellement long, je pourrais vous faire une heure sur cette histoire. Je vais au garage, et puis j'avais toujours quand même au fond de moi, je dis, purée, bon, là ils vont trouver le problème, mais ça va me coûter encore un bras. Et donc on arrive, et vous savez, vous avez tous eu le coup, à mon avis, quand vous avez un voyant, il branche la valise. Ça vous coûte déjà une centaine d'euros, juste pour brancher la valise pour trouver. Bon, je dis, je vous laisse, on va mettre la valise et puis on regardera après. Ok. Il m'appelle 2 heures plus tard, font, c'est bon, on a trouvé, vous pouvez venir récupérer votre voiture. Je vais la récupérer, j'arrive tout de suite à la caisse, je dis, combien je vous dois? Bah rien, monsieur. Je dis, bon, pourquoi? Allez voir le chef d'atelier, il vous racontera. Je vais voir le chef d'atelier, il me dit, écoutez, à votre voiture, j'ai trouvé le problème, j'ai mis la valise, donc c'est ça le problème, ça, ok. Mais il dit, par contre, je ne peux pas vous faire payer. Pourquoi? Il dit, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Au moment d'imprimer le rapport qui me permet de vous payer, je ne sais pas, la machine, elle s'est mise à bugger. Donc, je n'ai pas pu l'imprimer. Donc, du coup, je vous dis le problème. Mais je ne peux pas vous faire payer. Ok, merci. Et il me dit, par contre, je vous le dis, votre voyant, il est toujours présent à votre voiture. Hein. Ouais, j'ai dit, oui, c'est tout. Il faut que vous alliez dans un autre garage, chez votre concessionnaire. Et puis, je retourne dans la voiture, tout ça. Et j'appelle mon épouse, j'allume. Qu'est-ce que je vois? Plus de voyant. Enfin bref, voilà, le Seigneur, quand il libère, après il prend les choses en main, plaçons notre confiance totalement en lui. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus ma voiture. Je l'ai vendue avant que le voyant revienne. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Dieu, en tout cas, est un Dieu qui nous libère. Ce poids, il était là depuis un mois et demi, parce que j'ai changé ma prière, parce que j'y suis allé par la foi. Dieu m'a libéré totalement et après, il a pris les choses en main. Amen. Allez, dernier domaine à voir ensemble, les miracles qui guérissent. Domaine très important, très intéressant, enfin, en tout cas, je l'ai dit, moi, c'était le premier auquel je pense quand je pense aux miracles, en tout cas. Et il y a un exemple, donc, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a un exemple qui illustre bien ça, c'est l'histoire de la femme courbée que l'on trouve encore un miracle de Jésus dans Luc 13, 10, 13. Je vous le lis. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Quel fait extraordinaire, une fois de plus ici, quelle histoire magnifique. On a donc une femme, quel miracle ici on a. Ben, on a une femme qui, vous imaginez, depuis 18 ans est courbée. Alors certainement, je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas on aurait ce genre de situation, on peut imaginer que cette femme, elle a dû passer, voir n'importe quel spécialiste. Et pourtant il est précisé que 18 ans après, elle est toujours dans le même stade. Et le fait de rencontrer Jésus, juste parce qu'il a proclamé de sa bouche et en lui imposant les mains, cette femme 18 ans après, elle sait se redresser. Et on peut imaginer pourquoi elle glorifie Dieu 18 ans après. Que retenir de cette histoire? Deux choses importantes. Enfin, pour moi en tout cas, qui me semble important. Deux choses importantes, peut-être que ça fait 18 ans que tu as un problème, 18 ans que tu es là et que tu, comme cette femme, tu as dû voir tant de spécialistes qu'au bout de 18 ans, tu as toujours ce même problème. Sache une chose, j'en suis convaincu en tout cas, c'est mon cœur qui te parle et c'est aussi l'Esprit Saint, je suis sûr qu'il dit ça, Dieu peut te délivrer maintenant. Amen. Même 18 ans après, même au bout de 18 ans. Et peut-être même que ça fait 18 ans que tu pries pour un problème et que tu dis, Seigneur, j'ai mal, j'en peux plus, ça fait 18 ans que j'en peux plus, eh bien, Seigneur peut encore te guérir aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose importante, ce miracle. Peut-être que je l'ai lu rapidement, mais vous savez, ce miracle, Jésus, il l'a fait le jour du sabbat. Et je n'ai pas mis la suite, vous le lirez, mais après les versets 14-15, il y a un grand débat avec les religieux de l'époque qui leur dit, c'est honteux, Jésus, il guérit cette femme le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos, on ne peut pas guérir. Jésus, à travers ça, envoie un message clair, très fort. Jésus, peut-être que nous, on aurait des fois, quand on prie, on se dit, Seigneur, guéris-moi maintenant, et ça ne vient pas. On est, eh bien, sachez une chose, Jésus, lui, il a guéri le jour du sabbat. Jésus, il guérit quand il veut, où il veut, et comme il le veut, et pas comme nous, on le penserait. Donc, garde espoir, garde la foi, car Dieu peut encore te guérir aujourd'hui, même si ça fait 18 ans que tu le demandes. Amen. Alors, un exemple aujourd'hui. Et vous allez dire, Geoffrey, encore, il va nous raconter sa vie. Ben oui, je vais vous raconter ma vie. On a vécu quelque chose d'incroyable avec mon épouse, fin octobre. Alors, je pense que c'était aussi dans le processus, je préparais ma prédication. Mais en fait, notre fille, Alix, en plus de faire des chutes, non, elle porte des lunettes depuis qu'elle est toute petite. Et il y a quelque chose qui nous tracassait depuis cet été, c'est que, en plus de ses lunettes, elle se plaignait au moins, sans blague, hein, au moins 10 fois par jour de son œil. C'est-à-dire que les lunettes qui étaient censées normalement régler sa vue l'embêtaient. Et elle était là à toucher son œil et dire « Maman, papa, maman, j'ai mal à l'œil, j'ai mal à l'œil ». Au début, c'était pas beaucoup. Et puis, arrivé en octobre, c'était 10 fois par jour. On n'en pouvait plus. Et mon épouse, je me souviens, j'étais au travail. Alors, c'est pas bien parce qu'on va dire, il utilise son téléphone. C'est interdit au collège, les téléphones. Mais bon, nous, on peut. J'étais en cours et je regarde mon téléphone et je vois que Pauline, elle m'envoie « Bon, ben voilà, j'ai déposé Alix à l'école ce matin ». Par contre, ça va pas, elle arrête pas de se plaindre de son œil. Et je sais pas, alors j'étais poussé peut-être aussi par le Seigneur, et aussi je préparais la prédication à ce moment-là. J'ai renvoyé un texto à mon épouse, rapidement, parce que j'étais en cours. J'ai dit, pas de souci, ce soir, elle est guérie. Et après, quand j'ai envoyé ça, je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui m'arrive là? Et Pauline, elle me fait, ah bon? Qu'est-ce qu'il dit ça? Ben, j'ai dit, ce soir, on va rentrer, en rentrant de l'école, on lui impose les mains, on demande la guérison, et elle sera guérie, c'est le jour. Elle se plaindra plus de son œil. Et moi, après, avec le recul, je me suis dit, punaise, je suis un dingue. Qu'est-ce qui me prend? Mais au fond de mon cœur, j'avais quand même, ça bouillonnait. Je me dis, c'est le jour, je suis sûr, le Seigneur me le, comme si le Seigneur me le disait. Le soir, on rentre, 4h30, notre fille, elle arrive. J'ai mal à l'œil. Ça tombe bien, ma chérie. Viens. Et là, avec des mots simples, je lui ai expliqué. J'ai dit, tu vois, ma chérie, Alix, on lui avait parlé un peu de Jésus, ben, mais difficile d'expliquer à un enfant de cet âge-là ce qu'est Jésus. En plus, à Bouzbek, on a une statue de Jésus, un grand Jésus devant l'église. Elle croit que c'est Jésus. À chaque fois qu'on passe, hier, on passe, il y avait les bras levés. Elle fait, Jésus, il a levé les bras. C'est trop rigolo. Et donc, je lui dis, ma chérie, tu vois, Jésus, il a dit deux choses. Première chose, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est-à-dire que Jésus, il aime les petits-enfants. Il t'aime. Et deuxième chose, Jésus, quand il était sur terre et qu'il y avait quelqu'un qui avait un bobo aux yeux, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait les mains sur ses yeux. Il demandait pour qu'il soit guéri et la personne, elle était guérie. Alors, sur le coup, elle dit, donc on va prier pour toi. Elle me dit, non, ça va me faire mal. Non, ça va pas te faire mal, ma chérie. On a donc retiré et puis tout simplement, on a prié. On a dit, Seigneur, enfin, on était ensemble, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour, Seigneur, où tu vas enlever le bobo à Alix. Parce que tu as dit, Seigneur, on imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on veut croire, Seigneur, que le bobo va partir. Amen. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir de ce moment-là, elle ne s'est plus plainte de son œil. Incroyable. Même mon épouse, on l'a marqué dans un carnet, on a dit ça, il faut le garder. Il faut que dans 10 ans, 15 ans, on lui raconte et qu'on s'en souvienne. Ce jour-là, alors que notre fille, elle se plaignait sans blague 10 fois par jour, à partir de ce jour-là, elle ne s'est plus plainte. À tel point qu'elle, elle a compris. Et c'est là aussi où la foi, elle est importante, la foi des enfants. C'est-à-dire que le lendemain, elle va dans la rue, elle avait un peu mal au ventre. Et dans la rue, arrivée à l'école, elle fait « Papa, j'ai mal au ventre. Prie Jésus que Jésus m'enlève le bobo. » Devant tout le monde. Je dis « Oui, ma chérie, on priera Jésus pour qu'il enlève ton bobo. » C'est très rigolo. Voilà, mais Dieu agit miraculeusement et aussi, il guérit encore aujourd'hui. Amen. Alors, faisons un petit bilan, c'est le moment de la conclusion. Pourquoi Dieu nous permettrait de vivre des miracles aujourd'hui? Pour deux choses. Première chose, parce qu'il nous l'a promis, on l'a vu dans Marc 16, 17, il nous a laissé cette promesse, en tout cas, de ces miracles qui doivent nous accompagner. Et deuxième chose importante, je l'ai dit pour Alix, pour les petits-enfants, mais ça marche aussi pour nous parce qu'il nous aime. Et on a ce verset dans Matthieu 14, 14 qui en remet une couche. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle. Et il fit des miracles en guérissant les malades. Parce qu'il a ému, parce qu'il a beaucoup de compassion, il nous aime, les miracles viennent derrière. Et qu'attend-il en retour pour nous envoyer ces miracles aujourd'hui? Parce que c'est dans le deux sens. Ben, on l'a vu tout au long, il y a un dénominateur commun, c'est la foi, notre foi. Il attend que nous croyions, que nous ayons une foi assez forte pour croire qu'il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et il y a un levier important pour réclamer ces miracles, c'est la prière. On l'a dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez encore la fois que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors, je terminerai là-dessus avec la question de mon épouse. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre pleinement les miracles? Et je vous pose la question, j'ai fait le lien, notre foi est-elle assez forte? Parce que depuis tout à l'heure, je fais peut-être mon malin, enfin c'est pas mon malin parce que c'est Dieu qui agit ainsi, en vous racontant les miracles qu'on a pu vivre en famille depuis quelques mois. Mais Dieu, avant de vivre ça, on a eu une expérience aussi en vacances dans le sud, dans ce camping, décidément Dieu dans ce camping, il nous a fait des choses. Le premier jour où on arrive, on a une femme qui était en fauteuil roulant. Le matin, elle prenait son fauteuil roulant et puis des gens l'aidaient pour aller se baigner. Et moi, je remonte de la piscine. Pauline était avec Léo sur le transat et puis je vais la voir et elle me dit « Jo, je ne sais pas ce qui se passe. » Quand j'ai vu cette femme passer en fauteuil roulant, c'est comme si Dieu disait au fond de mon cœur qu'il fallait qu'on prie pour elle, pour qu'elle se lève et qu'elle quitte son fauteuil roulant. Elle dit « Vas-y, Jo, vas-y. » Tu l'as dit. Et là, j'étais pétrifié. J'ai fait « Non. Pas possible. » Et là, plein de questions dans ma tête. Imagine, ça marche pas, la honte. Et puis je suis pas un pasteur ou un ancien. Enfin, j'ai jamais fait ça ou même j'ai jamais fait ça. C'est pas possible, etc. Et puis on essayait de chanter dans ce cas-là. Vous savez, on priait le soir, on disait bon Seigneur. On a douté, on s'est dit peut-être que Pauline elle a non. Puis on s'est dit Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je prie pour cette femme, pour que enfin, que je prie, mais compris, t'aurais pu aussi. Fais en sorte qu'on le voit clairement, qu'il y ait un signe ce soir. Voilà, clairement. Bien sûr, le soir, on va au spectacle, c'était un amphithéâtre. Moi, j'étais en bas avec Léo parce qu'il fallait la poussette. Je m'assois, qui c'est qui vient s'asseoir? Enfin, qui était juste à côté de moi? Cette femme. Je me sentais super mal. Et les vacances sont passées, on a passé 2 semaines là-bas. Et en retournant à la voiture, on a fait le constat avec mon épouse, on a dit, en fait, cette femme, on n'a même pas prié pour elle. J'ai même pas parlé avec cette femme. Et je peux vous dire qu'on s'est senti tellement mal, mais mal, à un tel point qu'on s'est dit, mais... qu'on a prié, qu'on a demandé pardon au Seigneur, et qu'on a dit, Seigneur, que tu puisses faire que notre foi soit plus grande que ça. Parce que ce qui nous a manqué à ce moment-là, c'était notre foi. Et depuis, on prie que le Seigneur vraiment nous garde, et on prie encore, quand on prie à deux, que le Seigneur nous donne une foi encore plus grande. Parce que ce qu'on a vécu avec Alix aussi, et je terminerai là-dessus, ça sera ma conclusion, ce n'est pas une finalité en soi. Parce qu'après, il y a une pensée aussi qui nous est venue avec Pauline, c'est aussi ma femme, elle déborde. À ce niveau-là, il n'y a pas de tiède. Elle est chaude pour le Seigneur, dans sa foi. Et elle me dit, Jo, c'est génial, c'est génial, Alix, elle se plaint plus. Maintenant, on va prier, imposer les mains, et on va enlever ses lunettes, on va les jeter, et puis elle aura plus besoin de lunettes. Et là, un peu, ça m'a fait un peu la même sensation qu'avant. Et puis, c'est comme si, au fond de mon cœur, je lui ai dit, non. Tu te souviens ce que je t'ai dit? Non, c'est pas le temps de Dieu. Elle m'a dit, mais pourquoi c'est pas le temps de Dieu? Mais c'est comme si Dieu me disait, c'est pas mon temps. Et j'ai prié la semaine dernière, pendant le temps de jeûne et prière, et j'ai dit, Seigneur, pourquoi c'est pas ton temps? Et le Seigneur m'a dit une chose claire, peut-être que des fois vous pouvez penser, c'est pour ça que je terminerai là-dessus. Au fond de mon cœur, il me disait, j'en ai parlé à papa, il me disait, premièrement, Jo, c'est Dieu qui parle, donc Geoffrey, ou Jo, pourquoi pas, ne sous-estime pas les miracles que je fais. Et deuxièmement, et il disait ça avec amour, pas pour me juger. Aujourd'hui, tu récoltes simplement les miracles à la hauteur de ta foi. Donc, on a eu un miracle, celui-là, et comme je l'ai dit à mon épouse, je suis sûr qu'on le vivra un jour, mais en attendant, on a du chemin à faire. Notre foi est-elle assez forte pour vivre les miracles? C'est vraiment la question sur laquelle je veux vous laisser ce matin à travers cette prédication. Voilà.